Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Jacques Terray, vice-président de Transparency International France. Il est également administrateur de Finance Watch, administrateur de Éthique et Investissement, administrateur d'Épargne sans frontières, administrateur du Centre international du Vitrail. Un beau parcours de bénévole. Jacques Terray, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Vous apportez donc votre expertise et votre engagement sur les questions de régulation financière et de lutte contre les flux financiers illégaux. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez un schéma de Transparency International, peut-être d'abord sur le plan mondial, avant d'en arriver à la France plus particulièrement. Sur le plan mondial.
Transparency International a été fondée en 1993 par Peter Eigen, un Allemand qui était le directeur Afrique de la Banque mondiale.
Donc le siège est à Berlin.
Le siège est à Berlin.
Oui.
Il était directeur Afrique de la Banque mondiale et il a dit à Washington, écoutez, n'envoyez plus d'argent parce que le lendemain matin, ça repart pour la Suisse. Et la Banque mondiale lui a dit que ça ne les regardait pas, que c'est de la politique intérieure de chacun des pays. Et il a dit, moi, ça me regarde. Et il a fondé Transparency International. Au départ, il l'a fondé donc avec des chefs d'État africains, ses amis. Aujourd'hui, il y a 100 sections dans le monde, dont une en France, qui a été créée 3 ans après, en 1996.
Alors justement, le but de Transparency International, expliquez vraiment.
Alors le but de Transparency International, dans la lignée de Peter Eigen,
oui,
c'est de lutter contre la corruption dans le monde, la corruption sous toutes ses formes, que ce soit dans la politique, dans la finance, dans la vie de tous les jours, autrement dit à tous les niveaux.
Parce que en fait, il y a des pays qui sont vraiment très corrompus.
Alors, il y a des pays très corrompus, mais nous avons surtout l'habitude de dire, nous, qu'il y a deux acteurs dans la corruption, les corrupteurs et les corrompus. Et que lorsque un acte de corruption se produit, eh bien, c'est la faute des deux. Et dans ce jeu à deux, les pays comme le nôtre, comme la France, sont plutôt du côté des corrupteurs que des corrompus. Et là, il y a donc beaucoup de progrès à faire des deux côtés.
Oui, alors sur le plan mondial, est-ce qu'on peut faire un classement, disons ?
Alors, Transparency International, Monde, fait un classement tous les ans qui est très, très prisé par les journalistes parce que c'est facile, un classement.
Oui.
C'est simple. Oui. Il y a les bons et les méchants, il y a les très méchants et les très bons. Alors, si on...
Des noms.
Si on part par là, les très bons pour ce classement, ce sont les pays scandinaves et ceux qui sont de l'autre côté aux antipodes, la Nouvelle-Zélande, l'Australie.
Oui, bon. C'est vrai qu'on n'en entend jamais parler de ces pays.
Tout à fait entre nous, ce ne sont pas les pays les plus amusants, mais ils sont très honnêtes.
Bon, oui.
C'est clair. Les plus mauvais, tout à fait en bas, il y a les pays en guerre. Hein. L'Afghanistan, la Syrie. Ces pays-là sont des pays où la corruption va avec le trafic d'armes et le prix des matières premières. Bon, juste au-dessus, il y a quelques pays généralement très, très pauvres, qui ont donc une administration, une gouvernance, comme on dit maintenant, faible et donc beaucoup de désordre.
Oui.
En particulier la corruption.
Alors, est-ce qu'on a trouvé un indice de perception de cette corruption? Est-ce qu'il y a un classement?
Alors c'est là que le bât blesse. C'est que le classement que fait Transparency s'appelle l'indice de perception de la corruption.
Oui.
Et quand j'ai dit perception, j'ai tout dit.
Oui.
N'est-ce pas? La France, par exemple, n'est pas très bien perçue. Et à mon avis, son classement est un peu inférieur à ce qu'il devrait être.
Ah oui.
Mais toujours est-il, il faut bien avoir un repère. Et le repère, c'est donc l'avis d'une douzaine d'instituts de recherche qui est généralement assez tourné vers le business. Hein. Donc les pays les mieux considérés sont ceux dans lesquels, si on investit, on risque de retrouver ses billes à la sortie.
Alors, il y a eu des élections récemment. Quel est le nouveau président mondial?
Alors, J'ai dit que le premier président avait été donc un Allemand de la Banque mondiale. Eh bien, le dernier qui vient d'être élu il y a un an et demi est un Péruvien.
Oui. Donc ça, c'était 2014, 2013.
Oui, c'est ça, 2014.
2014.
C'est un Péruvien, il s'appelle José Ugaz. Et José Ugaz est celui qui avait mené l'accusation au Pérou contre le président dictateur Fujimori. Il s'est promené pendant 2 ans, lui et sa famille, avec des gardes du corps, parce qu'il était menacé de mort. Donc c'est un président militant.
Oui.
La vice-présidente s'appelle Elena Panfilova. C'est
une Russe. Ça, c'est bien, c'est une femme.
C'est une femme, vigoureuse. Oui. Une Russe de caractère, et il en faut en Russie dans les circonstances actuelles.
Oui, j'imagine. Vous la connaissez personnellement ?
Je la connais personnellement. C'est une femme de 45 ans à peu près, qui enseigne à l'université. Et en Russie, vous savez qu'il y a une loi, il y a un an ou deux, qui dit que toutes les associations qui reçoivent de l'argent de l'étranger doivent mettre une mention sur tous les documents qu'elle publie, agents financés par l'étranger.
Ah oui.
Alors elle a refusé de le faire.
Oui.
Pour l'instant, elle a reçu des menaces et on en est là.
Ah oui. Donc président, vice-présidente vivent dangereusement.
Exactement. C'est la première fois que on est passé donc des présidents et des vice-présidents occidentaux à des gens qui viennent du monde menacé par la corruption, notamment.
Et vous me disiez, lors d'un entretien, parce que, chers auditeurs, je crois que vous connaissez Jacques Terray, il est venu plusieurs fois dans nos studios, et vous me disiez qu'une fois que les gens étaient très connus, ils risquaient moins leur vie. Est-ce que vous le pensez toujours aujourd'hui ?
C'est très clair dans le cas précisément d'Elena Panfilova, qui commence à être bien connue à l'étranger. Elle vient souvent faire des conférences à l'étranger et par conséquent, elle peut probablement se permettre en Russie des choses que d'autres personnes moins connues ne pourraient pas se permettre. Encore que, quand on voit l'assassinat de M. Nemtsov il y a un an et l'assassinat à Londres, la personne dont j'ai oublié le nom, mais qui vient de se faire empoisonner au polonium 210, elle n'est pas non plus à l'abri.
Oui, alors vous-même qui êtes bénévole, je sais que vous voyagez beaucoup à l'étranger. Est-ce que vous, tous les bénévoles de Transparency International, êtes-vous nombreux d'abord ?
On est nombreux à être bénévoles.
À savoir ?
Ah, je n'ai pas le chiffre parce que les bénévoles, par définition, sont moins enregistrés que les salariés.
Oui, mais un chiffre juste pour qu'on se...
Je dirais qu'il doit y avoir 5 ou 10 000 bénévoles.
Ah oui, quand même.
Sur l'ensemble du mouvement, n'est-ce
pas ? Oui. Et alors j'en étais à, justement, vous risquez aussi votre vie, c'est dangereux.
Christiane, là, je n'ai jamais eu le sentiment d'être menacé. Même au cours de voyages en Afrique, quand on allait faire des conférences là-bas, non, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais par contre, nous avons 2 militants africains qui sont morts l'année dernière. Il y a 2 ans maintenant. L'un a été tué après avoir été torturé. Il avait mis le doigt sur un scandale de la police locale.
Dans quel pays, ça ?
C'était au Rwanda.
Au Rwanda.
Au Rwanda. Et un autre qui est mort d'épuisement au Gabon, après avoir été licencié de son métier, il avait dénoncé la corruption du pays. Il a perdu son emploi. Il est resté dans l'opposition et très digne. Et il a succombé d'épuisement.
Oui, c'est quand même vivre dangereusement que de se mettre un petit peu à regarder ce que les gens ne veulent pas montrer.
Absolument.
Alors, j'en arrive maintenant à l'indice de perception de cette corruption. Vous appelez cela IPC.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous dire cet indice dans les pays exportateurs ?
Alors ça, c'est un autre indice, c'est un deuxième indice qui est celui des pays exportateurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 faces à la corruption, il y a le corrupteur et le corrompu.
Oui.
Alors l'IPC regarde les corrompus et l'indice des pays exportateurs regarde les corrupteurs.
Oui.
Et donc, il ne regarde pas tous les pays, il regarde les plus gros exportateurs, une douzaine, une quinzaine. Là, la France se trouve au milieu du peloton.
Oui.
Ce qui est assez logique parce qu'elle est quand même un des principaux exportateurs mondiaux.
Alors, il faudrait aussi savoir que certaines entreprises reçoivent des pots de vin. Et ça, est-ce que vous le regardez de très près? Parce que ça peut être des milliards aussi.
Alors,
j'exagère peut-être.
Les entreprises, nous nous intéressons surtout aux entreprises qui en donnent des pots de vin. Qui
oui.
donnent des pots de vin pour obtenir les contrats internationaux.
Mais remarquez, ceux qui reçoivent sont aussi sensibles, non?
Ceux qui reçoivent sont souvent les États. Ce sont les États qui ont besoin d'un port ou qui ont besoin d'une autoroute ou d'un tunnel. Les entreprises internationales se bousculent pour essayer d'obtenir le contrat. Les cadeaux risquent d'arriver à ce moment-là.
Alors, est-ce que quelquefois, vous mettez le doigt sur...
Alors, on le fait et on le fait pas tout seul. On le fait avec les locaux. Nous, Français, nous sommes plutôt
de gros exportateurs. Vous pouvez nous donner un exemple précis?
Alors, exemple précis, mais vous m'embarrassez là.
Oui, oui, j'aime bien.
Alors, écoutez, il y a des exemples anciens sur sur l'armement. Il y a eu en France un exemple d'armement qui a été à Karachi, donc le Pakistan, avec la vente, si j'ai bon souvenir, c'était des bateaux, des bateaux de guerre, sans me souvenir. Il y a eu, à ce moment-là, la vente a eu lieu, et au moment où les ingénieurs français allaient là-bas pour mettre au point les engins, il y en a eu 11, je me rappelle bien, qui ont été assassinés, et il y avait une affaire de corruption derrière.
Alors, je pense également au jeu de facturation, parce que j'imagine, par exemple, en Zambie, ce qui s'est passé. Racontez-nous.
Alors, les jeux de facturation, c'est la méthode plus prisée des très grandes entreprises pour échapper à l'impôt.
Oui.
Les très grandes entreprises qui ont, par exemple, les entreprises minières.
Mmh.
Et celles que vous évoquez en Zambie sont les mines de cuivre de Zambie. La mine appartient à un conglomérat international qui s'appelle Glencore, qui est basé en Suisse. Et la manière de procéder consiste à extraire le minerai donc en Zambie et à le vendre à prix coûtant à une entreprise qui est une filiale du même groupe et qui se trouve à l'île Maurice, où l'impôt est égal à zéro.
Ah oui.
Et alors donc, la mine vend le minerai à prix coûtant, donc
elle ne fait pas de
bénéfice. Et c'est la filiale qui est à l'île Maurice qui revend sur le marché international en dégageant la marge, du moins quand il y a une marge, parce qu'en ce moment le cuivre est en...
Normalement, il y a une marge.
Normalement, voilà, c'est ça. C'est ça le mécanisme.
Voilà.
Et c'est un mécanisme qui est difficile à détecter parce que quand c'est aussi net que cela, ça se voit.
Mais ça se voit pas
toujours. Mais si c'est un peu plus subtil, il faut des administrations fiscales dans les pays comme la Zambie qui ne sont pas tout à fait armées pour détecter quel est le juste prix. Donc, c'est une chose qui est difficile à... Dans les pays
en
développement, c'est difficile.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. suis toujours avec Jacques Terret, qui est vice-président de Transparency International France. Nous avons évoqué dans une première partie le monde, la transparence dans le monde. Et bien maintenant, Jacques Terret, j'aimerais bien que nous en venions à la France. Alors, tout d'abord, en France, la question que j'ai tellement envie de vous poser, en 2009, est-ce que c'est vous qui êtes à la base de l'obligation des élus et des membres du gouvernement, les forcer en quelque sorte, à déclarer leur patrimoine et leurs revenus? Et est-ce qu'il y a eu du nouveau maintenant? Parce que nous avons tous connu l'affaire Cahuzac. Est-ce que déjà vous aviez avancé dans ce domaine? Et est-ce que vous avez encore eu de nouvelles étapes à franchir?
Oui, nous avons beaucoup contribué, je ne dis pas que nous sommes nécessairement les auteurs de ces lois, mais nous avons beaucoup contribué à ce qu'elles soient votées, en particulier à la suite des différents scandales qui ont pu se produire, et vous avez évoqué celui de Cahuzac. Nous avons travaillé sur plusieurs domaines. D'abord, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts qui font, par exemple, qu'un politicien, au niveau national ou au niveau local, va favoriser les intérêts de son groupe, de sa famille, de son entreprise, par rapport à l'intérêt général.
Ouais. Bon. Est-ce que, par exemple, il est possible, il est légal, qu'on puisse avoir un député ou un ministre qui mette son épouse ou sa fille à des postes importants?
Alors, pour l'instant, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit. Une des questions, c'est de savoir si l'épouse ou l'époux, dans le cas où c'est une femme qui est élue,
parce que ça peut arriver aussi,
savoir si l'époux ou l'épouse fait quelque chose ou ne fait rien.
Oui.
Si l'époux reste à la maison pour s'occuper des enfants et qu'en même temps, il est salarié par le groupe, là, ça ne va pas.
Oui, hein. Oui.
Bon. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle. On est en train de prévoir des codes de bonne conduite.
Oui.
Au niveau de.
Alors là, et qu'entendez-vous là, par là?
Alors, c'est ce qu'on appelle, en anglais, il y a un mot pour ça, c'est la soft law, la loi douce.
Hein,
qui n'est pas donc une loi impérative où vous avez une sanction à la fin, mais qui est une recommandation qu'on vous fait d'avoir une attitude plus morale. Alors, l'Assemblée nationale vient de se doter d'un code de conduite, le Sénat a un peu plus de difficulté à le faire, mais on espère beaucoup qu'il y arrivera. Alors, donc, les conflits d'intérêts, c'est un sujet. Au sujet des conflits d'intérêts, il y a quand même une chose intéressante qui est arrivée, c'est la déclaration d'intérêts. Il y a maintenant les 9000 personnes en France qui sont les élus et un certain nombre de hauts fonctionnaires sont obligés de faire une déclaration à leur entrée en fonction pour dire quels sont leurs revenus, d'où ils les sortent. Et puis, ils feront une autre déclaration d'intérêts tous les ans et une dernière à la sortie, et on verra si ça évolue. Il y a une déclaration d'intérêt et il y a une déclaration de patrimoine également.
Mais on a vu qu'il y en avait quand même qui trichaient.
Alors, il y en a qui ont triché. Il y a toujours le principe même des règles, c'est qu'il y a quelques tricheurs. Mais il y a maintenant une haute autorité de la transparence qui a épinglé déjà, alors qu'elle a 9 mois ou un... Elle n'a pas un an d'existence. Mmh. Elle a déjà épinglé 6 personnes.
Ah oui.
3 ministres et 3 parlementaires pour avoir fait une déclaration inexacte. Or, elle en est encore en dépouillement parce que 9000 déclarations à vérifier, ça prend du temps. Donc, il y a un vrai progrès là-dessus.
Parce qu'il faut bien dire que les Français trouvent que la vie politique n'a plus de sens parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils pensent que les gens ne sont pas fiables.
C'est précisément pour ça que...
Vous allez vous battre.
Qu'on a fait ces déclarations, qu'on a prévu ces déclarations, qu'on a prévu cette haute autorité qui travaille sérieusement. Donc, alors, il y a une nouvelle loi qui est en préparation. Notre loi sur la transparence, qui dans le jargon s'appelle Sapin 2,
ah bon,
du nom du ministre,
non
pas du nom de la forêt, mais du nom du ministre,
oui.
Qui alors va ériger l'actuel service central de prévention de la corruption en une autorité, une autre autorité indépendante, Et qui sera chargé de lutter contre la corruption.
Donc, mais alors ça, ce sera au sein du gouvernement ?
Ce sera au sein du gouvernement.
Et donc, il y aurait des gens de Transparency qui en feront partie ?
Ah non, 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 ce seront des fonctionnaires. Mais nous
mais
sommes...
vous pourrez veiller.
Christiane, nous sommes tout à fait partisans de ce genre de choses, parce qu'on n'est jamais trop de deux.
Oui.
Pour travailler,
oui.
Et en particulier si je prends l'exemple de ce que nous avons fait sur les biens mal acquis, dont nous parlerons
oui.
peut-être tout à l'heure,
oui.
Si on a à la fois une association et soit les magistrats, soit dans le cas de la haute autorité des hauts fonctionnaires, qui travaillent ensemble,
oui.
en confiance, ça ah, améliore beaucoup les
oui.
choses.
Oui. Alors justement, venons-en aux biens mal acquis.
Alors les biens mal acquis, c'est un peu notre drapeau à Transparence France. Nous avions en 2009 introduit une action contre trois chefs d'État africains et leurs familles. Il y avait le président du Gabon, Feu Omar Bongo. Et il y avait le président de la Guinée équatoriale et il y avait le président du Congo-Brazzaville.
Mmh.
Au départ, nous avions attaqué non pas dans leur pays, parce que nous n'avons pas vocation à intervenir dans leur pays, nous avons attaqué en France pour les biens qu'ils possèdent sur le territoire français. Dans le cas du président de Guinée équatoriale, ou de son fils plutôt, il s'agissait d'un immeuble de 5000 m² avenue Foch à Paris et d'une douzaine de voitures de sport plus belles les unes que les autres, et multicolores d'ailleurs. Et donc, au départ, le gouvernement français n'a pas du tout aimé notre action. Donc il nous l'a dit.
Ah oui, et pourquoi ?
Parce que ces trois pays sont des pays pétroliers.
Ah oui.
Et que se mettre mal avec des pays pétroliers pose des problèmes.
Et est-ce que ça a posé des problèmes ?
Alors, ça n'a pas posé de problème,
bon.
En réalité. Mais nous avons dû lutter pendant 2 ans avant d'être reconnus dans notre droit de faire cette action.
Et donc vous avez obtenu que... Alors, qu'avez-vous obtenu exactement ?
Nous avons obtenu de la Cour de cassation française,
oui.
au bout de 2 ans, le droit, pour une association que nous sommes, d'aller au pénal contre quelqu'un, ce qui est une nouveauté.
Et au pénal, qu'est-ce que vous avez obtenu ?
Alors, pour l'instant,
on en est là pour le moment ?
C'est qu'on est encore dans
ah,
les
oui.
investigations, parce que c'est très très long, d'arriver à prouver d'où vient l'argent qui a servi à acheter, par exemple, cet immeuble de l'avenue Foch. Il faut aller dans des paradis fiscaux faire des enquêtes, il faut que le paradis fiscal nous permette de faire l'enquête, et il faut, autrement dit, les enquêtes sont très très longues. Alors, on pense que, concernant la Guinée équatoriale, le procès devrait se dérouler soit fin 2016, soit début 2017, je veux dire le procès de l'audience, avec les pénalités.
Et à ce moment-là, vous pouvez casser cet achat.
Alors, ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que, à titre provisoire, l'immeuble n'a pas encore été vendu, mais tout ce qu'il contenait, qui était des trésors absolument.
Des meubles.
Des meubles. Ils avaient notamment.
Des tableaux.
Il avait acheté beaucoup de choses à la succession de Yves Saint-Laurent.
Ah oui.
Au moment où il avait acheté, je ne sais plus, le quart
de
la succession. Et il avait, l'immeuble était extraordinaire. Il y avait un salon avec des colonnes en corail.
Oh.
En fait, c'était Alibaba.
Alibaba.
Voilà, ça a été vendu à titre provisoire.
Mais est-ce que... Donc ça, c'est vendu. On ne peut plus revenir là-dessus.
C'est vendu parce que, comme il ne s'en occupait plus, il aimait beaucoup acheter, mais après ça, il s'en désintéressait un peu. Donc, on a pensé que tout ça allait se détériorer. Et c'est pour ça que ça a été vendu. Et l'argent, donc, est en ce moment déposé à la Caisse des dépôts. Hein,
mais ça a été vendu à qui, finalement, alors ?
Ah ben, des acheteurs,
vous
ou moi.
Ah oui, c'est ça, oui. Alors, ça, c'était cette affaire-là. Il y en a eu d'autres, vous disiez, bien mal acquis de vie.
Alors, il y avait donc trois chefs d'État
oui.
africains, les familles notamment. Et alors, ont des enfants, justement celui-là, celui de Guinée équatoriale, le père président de la République a nommé son fils vice-président de la République. Parce que pour les chefs d'État, vous savez qu'il y a un système qui s'appelle l'immunité.
Oui.
L'immunité, en principe, on ne peut pas attaquer un chef d'État étranger. Alors il s'est dit, en le nommant vice-président, je vais le mettre à l'abri des poursuites. Mais la Cour de cassation française vient de dire, alors ça il y a 2 mois, que c'était une nomination de faveur, de circonstance, et qu'on ne pouvait pas le protéger de cette manière-là.
Donc, vous avez quand même une très grande influence.
Oh, mon Dieu.
Eh si, puisque vous arrivez quand même à casser...
Tous les citoyens pourraient en faire autant, hein, je veux dire.
Votre organisation est quand même très bien... Faites, puisque vous arrivez à avoir de grands succès.
Nous avons un très bon avocat. Oui. Très bon avocat qui a en plus l'immense gentillesse de ne pas nous faire payer.
Oui, mais je pense que vous-même, vous êtes avocat.
Ouais, je suis un ancien avocat.
Oui, mais et beaucoup d'avocats certainement dans Transparency International.
Il y a plus de magistrats.
Plus de magistrats.
De magistrats, de professeurs de droit. Et d'anciens hauts fonctionnaires, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise aussi.
Ah oui.
C'est très varié comme.
Oui, ben c'est ce qu'il faut, c'est ça qui est bien. Effectivement. Alors, je suis toujours en France. Nous pouvons nous demander si la France est bien placée, justement.
Alors, sur le classement international des indices, la France n'est pas très bien placée.
Non.
Elle est nettement moins bien placée que les autres États européens, ses voisins. Et ça, j'ai parlé tout à l'heure de la perception. Hein. Perception de la France n'est pas très bonne à l'étranger, hein, on le sait. En plus, les quelques scandales qu'on a eus étaient assez retentissants.
Oui.
Et en plus, les Français, quand ils sont à l'étranger notamment, emploient souvent une espèce de dérision sur leur pays, ce qui est une erreur.
Ça, c'est dommage, oui.
C'est une erreur. Alors, les gens prennent ça pour argent comptant, parce que dans mon esprit, nous ne sommes pas tellement plus corrompus que les Allemands ou que les Anglais.
Et vous êtes optimiste, en fait, sur le rôle que vous avez eu, puisque vous avez quand même des chances, enfin, vous avez gagné des affaires, si je puis dire.
Oui. Nous sommes sur le bon voie. Et puis, alors, nous nous intéressons à développer cette rigueur morale, quoi, en France. Et en particulier, il y a une nouvelle loi en préparation sur laquelle nous avons beaucoup travaillé.
Oui, alors ça expliquez, parce que ce sera la conclusion.
Voilà, et c'est une loi qui va créer donc cette nouvelle haute autorité contre la corruption, qui luttera non seulement contre la corruption, mais qui luttera pour la protection des lanceurs d'alerte.
Oui, alors ça...
Les lanceurs d'alerte, l'exemple le plus remarquable, c'est Yann Frachon,
oui.
ce médecin normand qui a lutté
démasqué,
contre les effets
oui.
du Mediator.
Oui.
Et au début, elle avait été très mal jugée. Elle a été radiée de l'ordre des médecins pendant 7 ans.
Oui.
Et elle a fini par gagner, par montrer à quel point le Mediator avait fait du mal.
Donc, il faut des lanceurs d'alerte.
Il faut des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens très courageux qui, généralement, le payent très cher.
Eh bien, écoutez, un grand merci, Jacques Terray, parce que je crois que maintenant, nous en savons beaucoup plus sur Transparency International et nous sommes un peu rassurés, disons. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Jacques Terray.